Nous sommes avec Julien Blondel aux Utopiales, bonjour.
Bonjour.
Donc on est là pour parler de l'adaptation du roman Elric de Michael Moorcock en bande dessinée. Ma première question, ça va être alors une qu'on vous a posée, je suppose, 50 000 fois. Pourquoi Elric ?
Pourquoi Elric ? Personnellement, parce qu'on me l'a proposé, en fait. C'est un projet qui est né de l'envie de Didier Poli, un des dessinateurs de la série, qui déjeunait avec notre éditeur et qui lui a dit un jour, sur le ton de la plaisanterie, je m'attaquerais bien à un Conan ou un Elric avec une équipe française en BD. Ça s'est pas fait, ou pas fait depuis très longtemps. Sur Elric, ça s'est pas fait depuis des Druillers, des gens des années psychédéliques. Et du coup, l'éditeur a dit, ok, d'accord. Et il a contacté l'agent de Moorcock, il a négocié les droits et il les a obtenus. Et ensuite, ils ont cherché un scénariste pour s'attaquer à l'adaptation. Ils m'ont contacté parce que Benoît, cousin de chez Glénat, me connaissait du jeu de rôle. Et il cherchait quelqu'un qui avait cette culture à la fois des romans et des mondes imaginaires, donc jeux de rôle et tout ce qui est univers qui va autour. Donc, on refuse pas une proposition comme ça quand on est... fan d'Elric, moi j'ai découvert ça quand j'étais adolescent. Ça fait partie avec Stephen King ou Lord of the Rings des références, des piliers un peu de la culture fantasy. Après, il faut se mettre au travail, mais pourquoi Elric ? Parce que c'est une proposition qui se refuse pas, tout simplement.
Et le fait de travailler justement avec une équipe de dessinateurs, qu'est-ce que ça change pour le scénariste ? Est-ce que c'est vous qui décidez justement de telle case, telle partie, ce sera un tel ? Ou est-ce que c'est une saine émulation entre chacun ?
Moi, c'est une collaboration que j'aime bien, que j'ai depuis longtemps en jeu de rôle. C'est là que je viens. Quand on crée des univers ou des scénarios, on a aussi envie de les illustrer, de les montrer. Donc on les pense, on les décrit, on crée des histoires à l'intérieur. Et on a tôt ou tard besoin de les montrer en images, que ce soit sur les couvertures, des romans, et aussi après faire tout le travail de design graphique en bande dessinée. C'est un peu la base, en fait, l'aspect visuel. L'adaptation d'Elric, la partie graphique a été un aussi gros challenge que la partie scénario, parce que entre faire le tri dans l'ensemble des textes, des nouvelles, la chronologie, qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on n'adapte pas, la partie comment on va restituer tel monument, telle civilisation en dessin est au moins aussi délicate. Donc travail des dessinateurs, c'est stimulant parce qu'on va confronter deux visions, en fait, pour arriver à un objet raconté qui est de la bande dessinée, qui est comment on va raconter une histoire en case. Donc il y a eu une année sur Elric de recherche graphique, comment on va à quoi vont ressembler les Maniboneens, à quoi va ressembler Elric, à quoi va ressembler notre univers, et de travail sur le scénario, donc qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on n'adapte pas, et ensuite on s'est attaqué au tome 1, donc aux cases, aux planches. Et là, en général, ça dépend des équipes. Il y a des scénaristes qui font un découpage extrêmement précis, case 1, case 2, d'autres qui, au contraire, font juste une narration dialoguée où les dessinateurs vont faire leur storyboard. Sur Elric, on travaille vraiment à quatre mains avec Robin Recht, on fait le storyboard tous les deux, parce que on estime que c'est la meilleure façon de faire la passation de pouvoir, le lien entre le scénario pur et dur et la narration graphique bande dessinée. On fait beaucoup d'allers-retours sur ce storyboard pour être certain de la façon dont on raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'on monte dans les cases, comment on le montre, quel personnage on met en avant, quelle place on va accorder à une vue cyclopéenne de la porte de Maniboneet. Le rythme de narration, comme on aurait au cinéma, en BD, il est dicté par ce découpage, par ce storyboard. Et pour nous, il doit se faire en partenariat entre les deux.
Et justement, sur les descriptions, ça doit être un peu plus compliqué, je suppose, que du travail classique, parce que sur vos descriptions, dans le principe, vous pourriez reprendre juste un passage du roman ou d'une nouvelle. Jusqu'où est-ce que vous pouvez adapter, en fait, parce que, enfin, on en discutait un petit peu avant, et puis pour avoir rencontré Michael Moorcock, il vous laisse libre choix, d'ailleurs, sur l'adaptation, vous faites ce que vous voulez.
Oui, en fait, c'est à la fois simplifié, parce qu'on part d'un matériau qui est existant, donc on n'a pas 100% de création, on n'est pas sans filet, et en même temps, c'est compliqué, parce qu'on doit s'en écarter. On dit souvent ça en réponse aux questions qu'on nous pose sur l'adaptation, mais on essaie de trahir le plus fidèlement possible, parce qu'on sait qu'on va trahir. On sait qu'on change de support, on passe du roman à la bande dessinée, on sait que ça va être différent, qu'on fera des coupes, qu'on va apporter une autre vision qu'elle soit respectueuse dans le même sens ou qu'elle soit complètement différente, en rupture avec ce que Michael avait en tête quand il écrivait. Graphiquement, c'est le plus flagrant parce que ça a été écrit dans les années 60, Elric. Puis, quand il est dans les années 60-70, il y a un imaginaire visuel qui était très psychédélique, très coloré, très LSD, très rock. Et si on conservait cette image-là, aujourd'hui, elle paraîtrait sans doute datée, ou alors faudrait réinventer le rock'n'roll. Et on n'a pas cette prétention-là. On est parti, nous, sur une vision plutôt noire, plutôt gothique, plutôt romantique, grecque. Je pense que c'est ce qui a plu à Mike, justement, sur cette adaptation. C'est qu'on n'est pas reparti sur le côté dragon, démon, magie, on est parti sur le fond de son envie d'écrire Elric, le côté destiné, tragique, etc. Et au niveau graphique, ça a été la même chose. On a essayé de dérouler cette vision, cette envie, sur les passages obligés des romans, des nouvelles, en fait. Au niveau des descriptions, on a tous relu les romans, certains beaucoup plus que d'autres pour être sûr de rien oublier, mais même les dessinateurs ont fait l'effort de relire certains passages, et après on les a posés, on les a oubliés les romans, parce qu'on s'y réfère plus, on se réfère à notre nouvelle mythologie à nous, où on a décidé que les costumes étaient d'inspiration mésopotamienne, ou inca, ou égyptienne, on les a trouvés, on les a fixés, et maintenant on se réfère à ça. Quand on va, nous, avec Jean-Luc Cano, qui est mon co-scénariste sur le tome 2 et le tome 3, rechercher des petits détails pour être sûr de rien oublier, pour chercher une petite phrase clé à réintroduire dans nos dialogues, faire des hommages, on retrouve des choses, mais on se tient à ce qu'on a mis en place sur le tome 1, en fait.
Est-ce que vous tenez compte des avis ou des retours que vous avez des lecteurs ?
Absolument pas, parce qu'on est tellement sûr de nous que... Ouais, si, bien sûr, parce qu'en fait, on n'est pas dépositaire d'Elric. De la même façon que Michael nous laisse carte blanche sur ce qu'on en fait maintenant, parce qu'il nous a fait confiance, il a vu que le résultat était cohérent. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il y avait une démarche et il l'a trouvé cohérente. Et il est très gentil avec nous sur les critiques sur les livres. Mais de la même façon, Elric nous appartient pas. Donc... on en fait quelque chose, on essaie de le faire bien. On sait que, comme nous, des centaines de milliers de lecteurs dans le monde connaissent Elric, ont vu des adaptations graphiques, des illustrations, des couvertures, attendent farouchement depuis des années un film Elric ou une série télévisée sur Elric, et ça avance en ce moment. C'est pas notre personnage, donc nous, on doit apporter quelque chose qui tient la route. Donc quand on a des retours de gens qui découvrent Elric, il y en a encore, et c'est formidable pour nous, parce qu'on arrive à faire redécouvrir un personnage de roman... majeur dans ce genre-là, par la bande dessinée. On est tous vraiment contents de ça. Donc on a des retours sur « Ah, votre personnage est triste ou sombre, c'est pas le nôtre, mais merci, donc il découvre ». Quand on a des retours de gens qui connaissent, souvent on a affaire à des fans, des ultra-fans, hardcore, rôlistes, fans de fantasy, de science-fiction, et jusqu'à la forme de la pointe des oreilles, ils sont intransigeants. Donc on a des retours très très précis. Et ce qui nous plaît, c'est que c'est toujours tranché. On a des retours tranchés sur « je le voyais comme ça » ou « je le voyais pas comme ça », mais ça tourne, mais ça fonctionne bien. On n'a pas eu pour l'instant de menaces de mort, de lettres de chantage anonymes, non. Pour l'instant, les gens sont gentils avec nous, parce que je pense qu'ils... S'ils adhèrent pas à l'ensemble des choix, ils ont l'impression que les choix sont faits avec une vraie démarche derrière, à tous les niveaux, que ce soit graphique ou au niveau du scénario.
Du coup, vous êtes parti sur une série de combien de volumes ?
Alors on est parti sur, on a tout mis sur la table, ça c'était mon travail il y a 2 ans, c'était de prendre tout, de voir, d'essayer de refaire un déroulé de tout Elric, du début à la fin, remettre dans certains ordres des nouvelles qui paraissent anecdotiques, et garder l'important. On est parti sur 3 cycles de 4 tomes, qu'on fera pas forcément nous tous, l'équipe peut changer, l'éditeur peut se, les lecteurs peuvent se lasser d'ailleurs. Mais pour être certain, avant de commencer, de où on devait aller, ce qu'on devait intégrer ou pas dans une adaptation totale d'Elric, on a découpé ça en 3 fois 4 tomes. Un tome de 4, le premier, là on travaille sur le tome 3, qui est centré sur Mélanie Bonnet, sur Elric, sur les nouvelles fondatrices. Un deuxième où on va sur les jeunes royaumes, avec les rencontres des nouveaux personnages, Tristelune et Rakir. Et un troisième qui va plus sur la partie cosmique, Chaos, Loi, Balance, jusqu'à la mort finale d'Elric. Donc ça, on verra si tout le monde reste à bord du navire du destin pour faire cette adaptation au bout. Mais on a découpé en 3 fois 4 et là, on arrive sur la deuxième moitié du premier cycle de 4.
Est-ce qu'il y a des idées ou des envies de faire des sortes de petits spin-offs, puisque Michael Moorcock avait sorti un ouvrage avec Fabrice Collin qui racontait justement un passage que lui n'avait pas raconté lui-même. Est-ce que vous avez des envies comme ça ?
Alors, en fin de volume, en 3 capages, c'est des choses qu'on fait déjà, parce qu'on a déjà dans la bande dessinée des événements qui n'existent pas dans les nouvelles. On a déjà une part de création qui fait plaisir, parce que ça permet de se mettre un peu en danger et aussi de faire des fois la transition entre deux moments connus des nouvelles où il nous manquait une charnière. Donc on a déjà la carte blanche pour faire de la création dans cette adaptation. Ensuite, on a tous très envie de faire plein de choses sur Elric et sur l'énorme galaxie du champion éternel, de s'attaquer à Hawkmoon, à Erikaze, à Quorum et tout ça. C'est des gros projets, parce qu'on va, si on devait faire Hawkmoon, on le ferait avec la même énergie qu'on a mis Elric sur pied, et c'est quand même 2 ans de travail pour un tome. On sait que Michael Moorcock est... Quand on lui pose la question, il sourit, il nous regarde en disant « quand vous voulez les gars », donc ça fait plaisir. En même temps, on n'est pas dépositaire de son univers. Il y a plein de gens qui auraient des choses très intéressantes à raconter, graphiquement ou au scénario, sur ces autres personnages. Sur Elric, on peut s'attendre à des spin-offs, à des choses, parce que l'envie est là. On a la bénédiction de Michael, on a une équipe assez nombreuse. Il y a 3 dessinateurs, il y a 2 scénaristes. Donc on devrait pouvoir s'en sortir avec un projet en plus, un livre entre les deux. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on fait... la série de 4 par contrat, parce qu'il y a aussi une dimension contrat. Il faut que Michael et son agent voient ce qui se passe autour de la licence Elric, des autres personnages, qu'on en discute avec notre éditeur. Donc c'est des choses qui se discutent, quoi. Mais l'envie est là, ouais, ça c'est sûr.
Une idée de bande son à écouter en même temps qu'on lit la BD.
C'est subjectif, hein. Moi je sais ce que j'écoute quand je travaille sur Elric. Moi je travaille beaucoup avec du rock progressif. J'ai besoin d'avoir peu de paroles ou pas de chanteurs, donc des God is an Astronaut, des Maybe She Will, du Tool, des choses comme ça qui me permettent aussi, parce que je travaille sur plusieurs projets de front, de me réisoler dans la musique de ce projet-là et d'avoir les images qui reviennent. Donc je conseillerais spontanément ce que j'écoute moi. Après, je peux aussi conseiller ce qu'écoutent mes petits camarades, mais je trouve ça moins bien. Donc,
Le thème de cette année pour les Utopiales, c'est intelligence. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je vais paraphraser ma compagne, je veux dire que c'est quand même mieux trouvé que la stupidité comme thème. C'est vrai qu'intelligence, c'est bien. Oui, ça m'inspire plein de choses. On est sur un salon de référence en science-fiction, donc l'intelligence de artificielle à extraterrestre, en passant par la connaissance du cerveau, c'est un chouette thème, je pense que c'est transversal. Pour l'instant, on a à peine eu le temps de regarder les expositions, de faire connaissance avec l'édition cette année, mais c'est prometteur, oui, tout à fait.
Si on vous permettait d'avoir un des 5 véhicules que je vais vous citer, lequel est-ce que vous prenez ? Vous avez le choix entre Flash McQueen, la DeLorean, le Van Scooby-Doo, la Batmobile ou Kit ?
La DeLorean, sans hésiter. Parce que c'est la DeLorean, enfin, je ne vais pas vous la présenter, je ferai juste qu'on fasse attention à la date. Et voilà quoi. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des. C'est plus ma génération que les autres. Je me sens pas l'âme d'un super-héros, sinon j'aurais pris la Batmobile. Et oui, moi j'ai grandi avec ça, donc ça me rappelle des souvenirs. Et puis ça a quand même la classe, non ?
Je suis d'accord. Merci.
Plaisir.